Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente.
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, mais alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
18h, il est 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, c'est donc la mauvaise pub dont Renault se serait bien passé. Hein. Cette plainte qui va être déposée contre le groupe lundi prochain devant la justice en cause un ancien moteur jugé défectueux. Mais on va voir ça bien sûr dans un instant avec Julien Bonnet. La France attend par ailleurs de savoir, selon l'expression consacrée, à quelle sauce elle va être mangée ou pas ce soir par Standard & Poor's. Dégradation ou pas de la note souveraine de la France. Dans tous les cas, Thomas Asportas nous le dira, ça ne sera pas absolument catastrophique. On verra ça dans un instant. Et puis le plafond de la dette américaine, une fois de plus, on s'est joué un psychodrame pour absolument rien, puisqu'un vote du Congrès nous a évité, une fois de plus, le défaut de paiement. Comme d'habitude, on ira à Washington dans un instant. Voilà le programme de la première demi-heure. 18h30, 19h, le grand débat pour débriefer tout cela. 19h, les pionniers chez Fred Mazzella, comme tous les vendredis. Et nous sommes partis sur BFM.
Good Evening Business, le journal.
Donc cette plainte, oui, qui va être déposée lundi au pénal contre Renault-Nissan par plusieurs dizaines de propriétaires de véhicules potentiellement défectueux. Bonsoir Julien Bonnet.
Bonsoir Guillaume.
Journaliste auto BFMBusiness.com. Quel est le problème exactement avec ce moteur, Julien? Expliquez-nous.
Oui, alors spécifiquement, c'est le moteur essence, donc TCE 1.2 litre qui a équipé 400 000 modèles environ. Il était commercialisé entre 2012 et 2016. Et donc on le retrouve sur des modèles de marque Renault, mais aussi Dacia, Nissan et également un utilitaire Mercedes qui bénéficiait de ce moteur. Et en France, on estime qu'un peu plus de 133 000 voitures sont concernées. Les infractions, elles sont assez graves. La plainte, elle va être déposé au pénal lundi, donc pour tromperie aggravée ou encore mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir en fait négligé les clients victimes de ce problème moteur qui avait bien été identifié par Renault. Donc en gros, le problème, c'est une surconsommation d'huile. Ouais. Cette surconsommation d'huile en soi, c'est pas très grave, mais en fait elle peut occasionner une usure prématurée des éléments mécaniques et donc à terme potentiellement une casse moteur. Et ça, faut le rappeler, c'est une panne très lourde, parce que ça peut occasionner donc le remplacement du moteur de l'ordre de 10 000 euros. Et Renault, ils se défendent donc en disant: ils ont bien identifié ce problème. Sur 93% des cas, ça a été résolu. Sur les 7% restants, ils parlent notamment d'un calendrier d'entretien qui n'a pas forcément été respecté par le client. Et donc, en clair, l'origine de la panne qui ne peut pas être attribuée directement à ce défaut.
C'est ça. Mais pour les plaignants, donc il y a clairement faute de la part des constructeurs, Julien, dans cette
histoire. Oui, complètement. En fait, un point intéressant, c'est que Renault n'a par exemple pas lancé de campagne de rappel. Alors la raison, elle est assez simple, c'est qu'ils n'en étaient pas obligés par la réglementation européenne. Tout simplement parce que les éléments de sécurité du véhicule, ils sont pas en cause. Sauf que c'est pas l'avis des plaignants qui, pour avoir certains connu une casse moteur, disent quand ça arrive sur autoroute, on peut avoir une baisse de vitesse très rapide. Ouais. Et donc ça peut être dangereux à la fois pour eux comme pour les autres usagers de la route.
Bon, alors la question qu'on se pose, c'est quelles conséquences ça peut avoir pour Renault Nissan. En bourse, par exemple, ça n'a pas empêché Renault de grimper de 5%. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences pour Renault?
Oui, c'est ça qu'il faut voir. En fait, c'est que si la justice, bien sûr, s'applique à ce cas, il pourrait y avoir des conséquences, donc bien sûr en termes de réputation et boursière. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Les différentes infractions reprochées, si elles sont avérées, elles restent graves et elles exploseraient les constructeurs impliqués, donc Renault et Nissan, à des amendes qui pourraient aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel. Donc c'est juste énorme, et des peines d'emprisonnement quand même pour les responsables de ces infractions au moment des faits. Mais l'idée, c'est aussi pour les plaignants de faire pression sur Renault, pour ceux qui estiment ne pas avoir été assez indemnisés, voire pas du tout. Et un avocat qui a lancé en début d'année la première action collective en France dans le cas du Dieselgate. Donc là, ça n'a rien à voir avec ce cas Renault. Il m'expliquait qu'en fait le point positif, en tout cas, c'est que ces actions collectives, elles allaient permettre maintenant aussi aux clients lésés de mettre en avant ces potentiels tromperies, c'est pas avéré dans le cas de Renault, et donc dissuader en fait les entreprises qui pouvaient avant être incitées fait à des fois jouer un peu avec les codes, risquer une amende, mais qui aurait été finalement pas forcément proportionnée au préjudice subi.
Et voilà, en tout cas pour le début de ce feuilleton qu'on va suivre, on ne lisait aucune incidence, rien de loin de là pour Renault, puisque le titre a progressé de quasiment 5% ce soir à la clôture. Merci beaucoup Julien. Julien Bonnet avec nous sur BFM Business. 18h04. Donc Standard & Poor's, bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Ça va tomber ce soir a priori entre 22 et 23 heures. Est-ce que l'agence va dégrader la note de la France d'un cran? Ce que vous nous dites, c'est que même si ça arrivait, ça serait plus un événement politique qu'économique. Il n'y aurait pas mort d'homme, Thomas, finalement. C'est ça.
Oui, là, dans votre titre, il y a marqué S&P, beaucoup de bruit pour rien, point d'interrogation. Oui. On peut enlever le point d'interrogation.
OK.
Voilà, je vous le dis, parce que pour deux raisons. Parce que, la question, c'est est-ce que la note de la France, qui est aujourd'hui en double A avec perspective négative, va passer dans quelques heures à double A moins. Ouais. Bon, si c'est le cas, c'est tout sauf un drame, pour deux raisons. La première, c'est parce que si ça doit arriver, c'est intégré depuis des mois par les marchés. Quand une note est en perspective négative, comme c'est le cas aujourd'hui pour la France, ça veut dire que le scénario le plus probable à court terme, c'est une dégradation. Et la note de la France, elle est en perspective négative depuis le 2 décembre de l'an dernier. Donc ça fait des mois que les marchés ont intégré et pricé le scénario. Et donc quoi qu'il arrive lundi matin, même s'il y a une dégradation, les marchés et les taux ne vont absolument pas s'emballer. Et on en veut pour preuve, le 28 avril dernier, quand Fitch a dégradé la note, exactement dans le même scénario, on est passé de double A perspective négative à double A moins. C'est rien passé, les taux français n'ont pas bougé d'un centième. Et la deuxième raison pour laquelle ce serait pas un drame, en tout cas financier, c'est parce que ça ne changerait strictement rien à la perception des investisseurs sur la dette française, puisque la dette serait toujours classée dans la plus haute catégorie d'investissement, qui regroupe les notes triple A, double A+, double A et double A-. On resterait toujours dans la catégorie des meilleures notes. Et quand vous regardez par-dessus le marché l'historique de Standard & Poor's sur les dettes souveraines, eh ben on voit que quand vous êtes dans la plus haute catégorie d'investissement, 15 ans plus tard, vous avez 70% de chances de toujours en faire partie. Et 2% de chances de basculer dans la catégorie spéculative. C'est ce qui ressort de l'historique de Standard & Poor's sur les dettes souveraines entre 1975 et 2022. Ils sont allés chercher loin.
Ouais.
Conclusion, Bruno Le Maire, ce soir, peut s'endormir tranquille, en tout cas d'un point de vue économique et financier.
On s'est quand même demandé un peu s'il n'y avait pas le faux lac, parce que Bruno Le Maire, justement, dont vous parlez, on l'a vu mouiller le maillot quand même ces dernières semaines.
Il s'est agité, effectivement. Il y a une grosse mise en scène depuis des semaines de la part du gouvernement autour de Standard & Poor's. C'est public, le ministre a reçu à plusieurs reprises des représentants de l'agence pour les convaincre de son sérieux budgétaire, de sa trajectoire de rétablissement des comptes publics d'ici à la fin du quinquennat, de l'ambition des réformes, les milliards d'euros économies annoncés dans le prochain budget et le gel de 1% des crédits dans le budget actuel, ça va dans le même sens. Mais si le patron de Bercy s'agite et mouille le maillot, comme vous dites, eh bien ce sont pour des raisons politiques, c'est parce qu'il n'a aucune envie de se voir taxé par les oppositions et par l'opinion de mauvais gardien du temple des finances publiques au moment où il va annoncer dans quelques jours, le 19 juin, des efforts qu'il présente inédits dans le prochain budget, au moins 7 milliards d'euros d'économies, pour tenter d'accélérer le redressement de la France.
Donc
c'est un événement, si on doit employer ce mot, politique, mais pas économique et financier.
Verdict ce soir, a priori, entre 22 et 23 heures.
Voilà. Mais pas de panique sur les marchés lundi matin.
Pas de panique sur le marché.
Sauf énormissime surprise.
On verra ça, bien sûr. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Puis aux États-Unis, donc on s'en doutait un peu. Mais comme à chaque fois, on a évité le drame. Bonsoir, Antoine Hollard. Vous êtes à Washington. On en a eu la nuit dernière le vote du Congrès qui va empêcher de crever le plafond de la dette et donc d'aller, une fois de plus, au défaut de paiement, Antoine.
Oui, le texte adopté hier par le Congrès va d'abord permettre aux États-Unis de continuer à emprunter de l'argent sur les marchés. Et il y avait urgence, car sans cet accord, les caisses auraient été vides lundi. Ça veut dire qu'il y aurait eu un défaut de paiement. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du pays. Les conséquences auraient pu être dramatiques pour l'économie. On parle notamment de plus de 8 millions d'emplois menacés. Alors, pour éviter ce scénario catastrophe, il a fallu des négociations très intenses pendant plusieurs semaines entre démocrates et républicains. Le compromis qui a été trouvé, c'est d'abord une victoire pour Joe Biden. Le président américain a réussi à éviter une crise majeure alors qu'il est en campagne pour sa réélection. Il a aussi réussi à sauver ses grands plans d'investissement pour les infrastructures ou les aides fiscales destinées à attirer des usines de batteries électriques. Mais ce texte, c'est aussi une victoire pour Kevin McCarthy, le patron des Républicains à la Chambre des représentants, puisqu'il a obtenu en échange des coupes budgétaires, par exemple le gel de certaines dépenses sociales comme les bons alimentaires. C'est donc la fin du psychodrame et on n'entendra plus parler du plafond de la dette jusqu'en janvier 2025, c'est ce que prévoit l'accord. Ça veut dire que ce sera au prochain président de négocier à nouveau.
Voilà, comme à chaque fois, tout est bien qui finit bien et tout le monde s'embrasse au Congrès américain. Antoine Hollard avec nous sur BFM Business. 18h09, justement, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Étienne Brac, on vous retrouve à Euronext pour BFM Business. Les chiffres de l'emploi américain qui sont tombés et ce dénouement heureux, on s'est offert une très très belle séance ce soir à la Bourse de Paris, Étienne.
Oui, très clairement, puisqu'on a un CAC 40 qui gagne 1,9% ce soir à la clôture. C'était pas gagné, puisqu'à première vue, quand vous regardez ce rapport sur l'emploi américain, quasiment 300 000 créations de postes aux États-Unis au mois de mai, alors que le consensus s'attendait à 200 000. Donc on aurait pu dire le marché va baisser, etc. Mais non, pas du tout, puisqu'ils préfèrent regarder le salaire horaire moyen qui ralentit. Donc on a peut-être touché, là aussi, le pic d'inflation sur les salaires. Et donc vous avez les marchés qui sont en partie soulagés, qui vont de l'avant. Le CAC 40 retrouve ce soir les 7200 100 points. Ajoutez également à cela des informations selon laquelle la Chine pourrait booster son économie via des stimulus. Donc vous avez toutes les valeurs cycliques qui clôturent en hausse ce soir, à commencer notamment par ArcelorMittal, plus 4,6%. Le secteur automobile également qui est bien orienté, Saint-Gobain, plus 4%. À l'inverse, il y a un secteur qui est dans le rouge, c'est le secteur des télécoms. Vous avez Orange qui perd plus d'1%, BT plus de 3%, Deutsche Telekom qui perd plus de 8%. Pourquoi ? Parce que selon certaines informations de presse aux États-Unis, Amazon réfléchit à se lancer dans les télécoms dans un premier temps aux États-Unis. Et donc ça inquiète. Est-ce qu'il y aura une nouvelle guerre des prix dans les décennies à venir avec Amazon qui va venir avec la force de frappe, bien sûr, très grosse que l'on connaît à chaque fois qu'il s'implante sur un nouveau marché. À l'inverse, ça se passe bien pour les valeurs de télécoms aux États-Unis car le marché se dit qu'il y aura peut-être des OPA, des rachats, des acquisitions dans le secteur. En attendant, ce soir, vous avez une très belle hausse pour le CAC 40, plus 1,9%, 7270 points ce soir à la clôture. Néanmoins, en clôture, en baisse sur l'ensemble de la semaine, moins 0,6%, car souvenez-vous, en début de semaine, c'était du rouge.
Merci beaucoup Étienne Braque, donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Bien sûr, à la mi-séance, le Dow Jones qui s'envole. On salue les bons chiffres de l'emploi américain qui sont sortis aujourd'hui, hein, plus 1,8%, 33 670 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui gagne également du terrain, quasiment 1%, 13 227 points. Tout ça à la mi-séance. 18h11, c'est l'heure de nos premiers invités tout de suite en direct sur BFM Business.
Good evening business, l'invité.
On va revenir sur ce qui se passe autour de Renault depuis maintenant quelques heures avec cette plainte qui va être déposée lundi au pénal contre Renault et Nissan par plusieurs dizaines de propriétaires de véhicules potentiellement défectueux. On est en ligne, en visio avec Jean-Pierre Cornu. Bonsoir Jean-Pierre Cornu, merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Je rappelle que vous êtes ancien DSI de Renault, vous êtes consultant automobile et mobilité. Est-ce que cette histoire vous rappelle quelque chose de déjà vu, déjà connu dans l'histoire automobile, Jean-Pierre Cornu? Comment est-ce que vous regardez cet épisode?
On pense évidemment au Dieselgate.
Oui.
C'est le Dieselgate qui est une affaire d'ailleurs qui n'est pas close et qui a coûté 50 milliards au groupe Volkswagen. Mais c'est une affaire mineure par rapport à cette opération parce qu'il y a pas trop pris au sens où Volkswagen a véritablement utilisé des manœuvres frauduleuses pour gérer ses émissions. Là, il s'agit d'un moteur défectueux. Renault s'en occupe depuis longtemps. D'ailleurs, on a le sentiment que c'est tout récent, mais je vérifiais, le groupe Facebook, qui regroupe 7000 personnes d'ailleurs, a été créé le 6 mars 2019. Oui. Donc on est déjà dans une affaire qui a connu quelques temps chauds, notamment en janvier 2022. Le groupe Renault a toujours refusé de s'engager dans une opération globale en disant « mais ce sont des cas isolés que je traite bien ». Et de façon constante, le groupe dit « dans 92% des cas, nous sommes tombés d'accord avec les clients ». Il faut savoir qu'il s'agit de 400 000 moteurs qui ont été fabriqués dans cette série entre 2012 et 2016, et que là-dedans, il y a quelques milliers de clients aujourd'hui qui s'estiment lésés et sont prêts à engager une action de groupe.
Bah, on a l'impression, Jean-Pierre Cornu, c'est plus du dilettantisme ou un peu de laxisme qu'on va reprocher à Renault, effectivement, plus que de la dissimulation. Donc pour vous, ça amoindrit l'ampleur du scandale. C'est ça que vous nous dites.
Je pense que Renault a voulu traiter cette affaire, comme très souvent dans le cas des défectuosités automobiles, en bilatéral avec les clients. Mais on est tombé sur un avocat qui, évidemment, a voulu en faire une opération globale. Et là, tactiquement, probablement, Renault a mal joué. Mais je crois sincèrement qu'il faut relativiser ce dossier qui n'a rien à voir avec les grandes affaires qu'on a pu connaître avec Ford il y a longtemps sur les pneus ou avec le Dieselgate.
Donc vous dites que Renault peut s'en tirer entre guillemets en discutant finalement au cas par cas. Pour vous, c'est ce qui pourrait se passer, c'est ce qui pourrait satisfaire les clients, les quelques pourcents de clients s'estiment encore lésés finalement dans cette histoire.
Voilà, moi je pense que, vous savez, dans ces affaires-là, c'est toujours une affaire d'argent. Les clients lésés, c'est très désagréable, hein, d'avoir un véhicule défectueux.
On en vient toujours là, monsieur Cornu, oui.
C'est déplaisant, et la difficulté, c'est qu'il va falloir trouver un accord pour éviter que cette affaire ne ternisse la réputation du groupe, au moment d'ailleurs où toutes les opérations de moteurs thermiques vont passer dans une nouvelle filiale avec Geely, dans le cadre de cette filiale qui s'appelle Horse. Donc, il y a un effet de bord qui peut être désagréable pour le groupe, mais qui, à mon avis, va être maîtrisé.
Bon, rien de l'ampleur du Dieselgate, il y a de ça maintenant de nombreuses années. Merci beaucoup, Jean-Pierre Cornu. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir. Ancien DSI de Renault, consultant automobile et mobilité. Il y a un bouquin qu'on peut lire si on veut vous suivre, Liberté, égalité, mobilité, aux éditions Marie B. On le voit à l'image. Merci beaucoup, Jean-Pierre Cornu, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. 18h15. On va parler foot quelques instants, mesdames et messieurs. On va parler du PSG. Alors, pas côté terrain, vous nous connaissez, mais côté financier. Parce que sportivement, on va en parler avec Virgile Caillet, tiens, que j'accueille. Bonsoir Virgile, merci d'être avec
nous. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Directeur général de l'Union Sport et Cycle. On va parler du PSG financièrement parce que, autant sportivement, le PSG continue à patauger un peu, si vous me passez l'expression, autant on a des chiffres qui nous disent que, du point de vue financier, la valeur financière, en fait, du groupe continue de progresser. C'est le magazine Forbes qui nous dit ça, Virgile. La valeur financière du PSG, je donne le chiffre, elle a dépassé les 4 milliards d'euros cette année, plus 32% sur un an. Ça arrive l'année où, sportivement, on dit qu'on est sur la saison la moins aboutie depuis que les Qataris sont arrivés. Ce qui prouve que les phénomènes ne sont pas liés, finalement, Virgile. Hein.
Non, effectivement, vous avez bien résumé la situation. Une saison sportive qu'on peut qualifier de poussive, et parallèlement à cela, effectivement, une santé économique, ou en tout cas une emprise économique sur le monde du sport qui est de plus en plus importante. Vous évoquiez presque 4 milliards d'euros, hein, on est à un petit peu plus de 4 milliards de dollars.
C'est ça.
Forbes qui récemment a évalué le Paris Saint-Germain. Mais globalement, cette montée en puissance, elle est la continuité de ce projet de club qui est mené depuis plusieurs années depuis l'arrivée des Qataris. Normalement, il y avait deux trajectoires parallèles qui devaient les conduire au firmament des franchises sportives, une trajectoire sportive et puis une trajectoire économique. Objectivement, la trajectoire économique, c'est très impressionnant ce que les Qataris ont réussi à faire au Paris Saint-Germain. Sur le plan sportif, on a l'impression que c'est un petit peu en retard, en décalage par rapport à ce qu'ils ont su construire sur au niveau économique.
En quelques mots, c'est quoi la valeur financière d'un club ? Est-ce que c'est comme une entreprise, l'addition des atouts et des matériels et immatériels ? C'est quoi, Virginie ?
Exactement. C'est la valorisation des actifs du club, donc de la société qui est propriétaire du club. Alors, il y a des actifs qui sont matériels, des actifs immatériels. Dans le cas du Paris Saint-Germain, et c'est le cas de la plupart des clubs de football français, il s'agit surtout de valoriser les actifs immatériels parce que malheureusement, et c'est bien un sujet du moment, on en a déjà parlé sur votre antenne, le Paris Saint-Germain n'est pas propriétaire de son stade.
Oui.
Contrairement aux clubs anglais pour la plupart et les clubs espagnols pour beaucoup d'entre eux. Donc en fait, ce qui permet au Paris Saint-Germain d'être autant valorisé par les experts économiques, c'est d'abord ce qui constitue son ADN. Le Paris Saint-Germain et cette valeur iconique de la ville de Paris, de la Tour Eiffel, c'est extrêmement puissant, extrêmement fort sur le plan économique. Ensuite, il y a sa capacité à attirer les meilleurs joueurs de la planète.
Oui.
Ça aussi, c'est valorisable, même si c'est immatériel. Ensuite, il y a la dimension internationale. Le Paris Saint-Germain est devenu une plateforme de communication internationale. Et puis, la construction du centre d'entraînement qui participe aussi à cette évaluation, à cette valorisation financière.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous rappelle qu'en 2019 encore, la valo du PSG n'était que de 1 milliard. Donc on sent quand même qu'en l'espace de 3-4 ans, il y a eu peut-être avec l'arrivée de Messi et peut-être dans une moindre mesure de Neymar, là, un changement de dimension. C'est peut-être ça qui a fait grimper aussi la valeur du club, très sincèrement.
Exactement.
Et
derrière l'arrivée de ces grands joueurs, c'est la capacité du Paris Saint-Germain à assumer ses promesses, de rêver plus grand, et puis sa capacité à aller sur le terrain de l'international, à conquérir les territoires. Aujourd'hui, c'est le club de football qui a le plus de boutiques à l'international. C'est incroyable. Ont ouvert des académies. Ça fait 10 ans qu'ils font des tournées à l'international. Donc, évidemment, ils ont été capter l'intérêt de nombreux pays. Et ça aussi, c'est une valeur, être capable de communiquer, de s'adresser à toutes ces populations. C'est pas donné à toutes les franchises sportives.
Mais est-ce que ça, tout ça n'a pas, il nous reste une minute, Virgile, mais est-ce que tout ça n'a pas une limite? Parce qu'à un moment donné aussi, sur le terrain, le palmarès ne suit pas. Est-ce que c'est viable sur le long terme? Là, je vois effectivement les clubs qui sont classés en premier. Le premier, c'est Manchester United, 6 milliards, qui doit plus sa place à son ancien palmarès qu'au palmarès actuel. Derrière, vous avez des Barcelone, des Liverpool. Ce sont des clubs qui ont une histoire. Si à un moment donné, le palmarès ne suit pas et sur le terrain, ça ne suit pas. Est-ce que c'est viable sur le long terme, cette stratégie pour vous, finalement?
Vous avez absolument raison. C'est vous touchez là où c'est... C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir que sportivement, les promesses et les ambitions du Paris Saint-Germain puissent se concrétiser et soient relativement à la hauteur de la dimension et des promesses économiques. Ce n'est pas tenable sur le long terme. Oui. Et il devient urgent pour le Paris Saint-Germain de mettre en accord ces deux trajectoires. Cette trajectoire économique est exemplaire, qui est exceptionnelle, et puis une trajectoire sportive qui tarde à se concrétiser, effectivement.
Il faudra donc, si vous me passez l'expression, comme certains le disent aujourd'hui, que ça soit plus qu'un club de footix, on va dire ça comme ça, ce qui peut, de l'avis de ses détracteurs, avoir tendance à être l'avenir du Paris Saint-Germain.
Non, mais comme le club porte beaucoup de promesses, on l'attend toujours en finale de Champions League. Oui, alors effectivement, oui. On a l'impression que c'est toujours décevant, mais il vient quand même de faire un 11e titre de champion de France. Donc oui. Le palmarès, c'est pas mal, mais pas à la hauteur des promesses.
Merci beaucoup, Virgile. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Vous.
Quelques minutes, directeur général de l'Union Sport et Cycle avec nous sur BFM Business. 18h21, on marque une pause. Le grand débat arrive dans un instant. On attend Standard & Poor's, on va faire le petit jeu des paris. On va parler bien sûr du dossier Renault et puis les chiffres de l'inflation. A-t-on atteint le pic de l'inflation? Ah, c'est le grand débat. Puis les retraites, bien sûr, qui vont revenir la semaine prochaine dans l'actualité. Tout ça jusqu'à 19h. À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, oui, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h sur BFM Business. Nathalie Janson est avec nous. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Guillaume.
Professeur d'économie à Neoma Business School, Bruno Coquet. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Bienvenue. Beau docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Puis Rodolphe Bonas est avec nous. Bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Guillaume.
PDG d'Aristide Retail Technologies. Est-ce que vous avez bien dormi la nuit dernière, sachant que Standard & Poor's allait se prononcer ce soir sur la note de la France? Est-ce que vous craignez, redoutez que cette note soit dégradée d'un cran? Je vais vous demander votre avis dans un instant. D'abord, on va écouter ce que nous disait l'économiste Eric Ayer ce matin sur BFM Business. Lui le dit, après tout, ça n'est qu'un avis, Standard & Poor's, écoutez.
Les agences, c'est encore une fois, quand elles notent les entreprises, c'est très important, d'accord. Quand elles notent les États, c'est un peu une vitrine. Hein. Elle dit, voilà, je sais noter, mais elle donne un avis. Mais comme le FMI pourrait donner un avis, comme le Haut Conseil des Finances Publiques pourrait donner un avis sur est-ce qu'on pense que la stratégie est bonne. Vous voyez, quand le gouvernement fait son programme de stabilité et le remet à Bruxelles, le Haut Conseil a donné un avis en disant est-ce que c'est crédible, pas crédible. Bah, ça a quasiment autant d'impact que les agences de notation.
Bon, voilà, Eric Ayer ce matin sur BFM Business. On a l'impression, effectivement, tout ce qu'on entend, que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas la mort du petit cheval ce soir. Vous êtes d'accord avec ça, Bruno, vous? Non-événement ou pas, cette histoire de Standard & Poor's, finalement?
Et surtout, c'est déjà à peu près intégré.
Ah oui.
Alors, est-ce que...
Alors que ça soit intégré, c'est une chose, qu'il faille quand même écouter le message et en tenir des...
Mais enfin, ce qu'on comprend quand même, c'est que le ministre des Finances a lutté pour quand même influer sur la notation. Ouais. C'est pas quand même une bonne nouvelle d'être dégradé, même si ça a pas forcément d'impact. Mais enfin, ça a quand même un impact d'image qui est relativement important. Alors après, est-ce que le but est de satisfaire Standard & Poor's ou le contribuable? C'est ça la question.
C'est un beau sujet de philo. Faut-il satisfaire Standard & Poor's ou le contribuable français?
Oui, donc l'objectif, c'est quand même que les finances publiques aillent bien. Hein, oui. Donc, or, elles ne vont pas bien. Et on a un déficit budgétaire qui est quand même très élevé, qui ne s'est pas beaucoup amélioré depuis 2019, depuis la crise sanitaire, voire qui s'est détérioré. Et alors que nos partenaires européens sont dans une situation bien meilleure et sur une trajectoire souvent bien meilleure, même chose pour le ratio dette sur PIB, on n'est pas brillant. Hein. Du coup, on dépense beaucoup, ce qui soutient l'activité, ce qui soutient le marché du travail. Donc, on a des bons résultats par ailleurs. Mais quand même, il y a un sujet finances publiques et, comme le dit Eric Ayer, il y a plein de gens qui observent ce sujet finances publiques et le point, c'est qu'il va falloir faire quelque chose, probablement.
Faire quelque chose. Nathalie, ça vous inquiète ou pas? Est-ce que vous pourriez nous dire son
arrêt? Non, il n'y a aucune inquiétude à avoir, étant donné que, pour le moment, même s'il y avait un avis... En fait, c'est plutôt un impact, effectivement, politique, parce que, de toute façon, même s'il donne un avis plutôt défavorable, il n'y aura pas de conséquences très fortes, étant donné que, sur d'autres points qu'on évoquera sans doute après, il n'y a pas à s'inquiéter, il y a des pays bien pires que nous. Effectivement, là, c'est plus parce que ça suit le signal de Fitch qui avait dit, c'est pas, je suis négatif, non pas parce que j'ai des doutes sur la capacité de rembourser, c'est parce que je trouve que la dynamique politique en France ne permet pas les réformes. En fait, voilà.
C'est ça le message.
Rodolphe, c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir que dans le dispositif de notation, on note aussi la dette en fonction de pourquoi on fabrique cette dette. C'est-à-dire que d'un côté, si jamais j'allais dire que c'est une dette de fonctionnement mal gérée, bah, dans ce cas-là, vous descendez. Si c'est une dette d'investissement, dans ce cas-là, les agences de notation en tiennent compte. Et donc, du coup, elles se mettent en mouvement pour justement garder votre note à un niveau plus élevé. C'est plutôt ça qu'il faut regarder. C'est plutôt les éléments structurels qui nous éclairent. Et puis, en effet, c'est un marqueur politique, on s'en souvient, vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy en 2011.
Alors ça, je crois que ça arrive en janvier 2012, donc on est à quelques mois avant le premier tour. Enfin, c'est terrible.
Et qui se fait interpeller sur ce sujet, qui explique devant un parterre de journalistes, je ne comprends pas votre question. Tout le monde a bien compris la question, c'est qu'on est très embarrassé d'afficher d'un côté politiquement aux Français que le pays est géré, il est sur les rails, et que malheureusement, des acteurs indépendants vous expliquent que vous avez un petit problème de gestion.
Lui-même, je crois que je disais, Rolf, si on est dégradé dans les prochaines heures, j'ai perdu l'élection présidentielle. On ne saura jamais si c'est ça qui a précipité. Non, aux yeux de l'opinion, quand même, ça a joué. C'est là qu'on avait découvert à l'époque le pouvoir de nuisance des agences de notation qui a un peu faibli quand même. Ils ont un peu perdu de leur lustre, on est d'accord là-dessus.
Ah, bah ça, c'est sûr.
Oui, c'est plus la même, quoi.
Pour les raisons qui étaient évoquées tout à l'heure, c'est que tout ça est extrêmement anticipé.
Ouais.
C'est-à-dire que finalement.
Sur des pays qui sont problématiques, ils peuvent quand même toujours avoir un impact. Parce que, effectivement, quand ils baissent la notation, c'est quand même. Ouais. C'est des pays qui vont déjà mal.
Ouais.
Et là, le fait qu'ils passent à un autre niveau, ça a quand même beaucoup d'impact.
À moins qu'on tombe en catégorie spéculative ce soir, mais enfin, a priori, c'est pas programme. A priori, c'est pas dans les tuyaux. On verra ce soir. En tout cas, on suivra ça. On revient dans un instant. Vous verrez que cette histoire de Standard & Poor's, les Français s'y intéressent. Un sondage intéressant qui est sorti dans la presse. On voit tout ça dans un instant. On fait une petite pause parce qu'il est 18h30 sur BFM Business.
BFM Business, l'info éco.
Et à 18h30, c'est Faiza Younzi qui nous donne les grands titres de l'actualité. Bonsoir Faiza.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Aux États-Unis, cette nouvelle hausse surprise des créations d'emplois en mai. L'économie américaine en a créé 340 000. C'est quasiment 150 000 de plus que ce qui était attendu par les analystes. Cette tendance est tirée par les services, la santé, la construction, entre autres. La hausse des salaires, elle décélère légèrement à plus 0,3% sur un mois. Et soulagement sur les marchés. Après l'accord sur la dette américaine, hier soir, le Sénat a approuvé la suspension temporaire du plafond de la dette pour 2 ans, ce qui écarte le risque de défaut de paiement. L'accord a été évidemment salué par Joe Biden. En France, vous le disiez, on attend la note de l'agence de S&P après l'abaissement de celle de Fitch le mois dernier. La France, actuellement notée AA, pourrait de nouveau être sanctionnée pour sa gestion des finances et la crise sociale sur fond de contestation de la réforme des retraites. On attend le verdict en fin de soirée. Dans le secteur automobile, cette plainte au pénal à l'encontre de Renault, des dizaines de propriétaires de voitures de marque Renault, Dacia, Nissan veulent poursuivre le constructeur pour des moteurs défectueux, selon Le Parisien. La plainte doit être déposée, notamment pour tromperie aggravée et pratiques commerciales trompeuses. De son côté, Renault estime que la plupart des demandes de ses propriétaires ont déjà été prises en charge et qu'il n'y avait pas de problème de sécurité sur ces moteurs. Amazon, sur le point de bousculer le marché du téléphone mobile aux États-Unis. D'après Bloomberg, le groupe travaillerait sur une offre pour ses membres Prime. Il aurait déjà entamé des discussions avec des opérateurs. Amazon ambitionnerait de proposer des abonnements bon marché, voire gratuits, pour fidéliser ses clients. Après Washington, Paris, la commission d'enquête du Sénat va entendre à son tour des représentants de TikTok. Jeudi prochain, 2 dirigeants français du réseau social seront auditionnés dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. 15 millions de Français se connectent régulièrement à TikTok. Les sénateurs veulent en savoir plus sur le fonctionnement de l'algorithme et les effets de TikTok sur les plus jeunes. On jette un œil à la Bourse de Paris. Nette hausse en clôture pour le CAC 40, plus 1,9% à 7270 points.
Merci beaucoup Faiza, 18h32. C'est reparti pour le grand débat jusqu'à 19h sur BFM Business.
Good evening business, le débat.
C'est reparti avec Nathalie Janson, avec Bruno Coquet et Rodolphe Bonnaz. Donc on continue un petit instant sur Standard. Je vous demande un pronostic, tiens, histoire de rigoler, Nathalie. dégradation ou pas?
Oh, bah, s'ils veulent être désagréables, ils dégradent. Je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que si. Ils passent comme Fitch à négatif.
Dans le pape, voilà.
Parce que c'est. Il est là pour dire je ne suis pas à la botte du ministre. Il a beau me montrer ses petits scénarios, j'y crois pas.
Enfin, un petit peu d'orgueil mal placé chez les agences de.
Je ne sais pas, mais en tout cas, si effectivement ils estiment que un des principaux problèmes en France, c'est effectivement cette non-majorité à l'Assemblée nationale qui peut empêcher le passage de certaines réformes. Parce qu'en fait, Fitch, c'était ça, en fait, qui le soulignait. Il dit, Jésus, c'est pas que je ne crois pas le gouvernement, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'alliance durable. Donc, comme on l'a vu sur les retraites, en fait, c'est l'explosion de ce qui se passait au niveau des retraites qui, c'était pas les retraites en soi, c'était le fait que ça annonçait, en fait, un travail un peu difficile dans les années à venir.
Et ce qui s'est passé, ce qu'on a vu sur les retraites, dont on en parlera tout à l'heure.
Après, comme je l'avais déjà évoqué, je peux revenir dessus, si on regarde globalement, il y a des pays qui sont notés un peu moins bien que nous, mais pas de façon désastreuse, comme le Japon, faut quand même le rappeler, le Japon est toujours en A alors qu'il a plus de 270% de dette. Oui. La raison pour laquelle, et ça c'était Jean-Marc Daniel qui l'a rappelé, je crois, sur vos plateaux aujourd'hui.
Ce midi, ouais.
C'est exactement, en fait, il se trouve qu'effectivement la charge de la dette, le service de la dette, qui était une composante également importante, en fait, est faible. Elle représente même pas 1% parce qu'en fait, ils émettent à taux en moyen relativement négatif. Ce qui fait que c'est pas inquiétant. Alors pour la France, l'autre volet, c'est que du coup, nous, pour le coup, comme on a augmenté les taux d'intérêt assez rapidement, ce sujet du service de la dette pourrait se rajouter. Alors, parce que là, on est déjà à presque 2%.
Pronostic, dégradation ce soir.
Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une dégradation.
Ah, bah, carrément.
Mais non, qu'il soit en négatif,
Bruno,
comme Fitch, qui
Bruno,
s'aligne à Fitch.
Pronostic voilà. Pour ce soir.
S'il ne dégrade pas la France, là, dans les conditions, je ne vois pas qui vont dégrader dans les pays comparables dans les mois à venir.
Alors, oui et oui.
Alors, moi, je pense que oui. Si c'est non, Bruno Le Maire aura été très fort,
il parce qu'il est
énormément reçu, il leur a expliqué, il leur a fait la danse du ventre. Donc si on garde ce AA classique et qu'on passe pas à moins, c'est qu'on a été...
Il en récoltera les fruits politiques. En tout cas, je vous disais tout à l'heure, on parle beaucoup des agences de notation. Aujourd'hui encore, ce sondage qui est sorti dans la presse, vous allez voir si vous nous regardez à la télévision sur BFM Business, sondage est là pour nos confrères des Échos et l'Institut Montaigne. 71% des Français s'inquiètent du niveau de la dette. Les trois quarts estiment qu'il est urgent de la réduire. Alors les Français sont toujours en mode faites ça mais pas sur mon palier. Hein. C'est-à-dire que vous avez 54% qui vous disent faut une contribution exceptionnelle des plus aisés. Voilà.
Oui, c'est sûr.
On est d'accord sur le fait qu'on est trop endetté, mais après pas chez moi. Voilà.
Ça
c'est marrant, je trouve.
Ce chiffre il est assez exceptionnel parce que il illustre ce que vous disiez, Guillaume. D'un côté c'est pas chez moi, mais il illustre aussi que cette tension de la dette depuis 20 à 30 ans dans le débat politique, ça y est, maintenant, il est acquis par les Français. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire la différence entre le déficit et la dette. Ils ont bien compris l'argent qu'on perdait tous les ans et l'argent qu'on avait accumulé de pertes depuis toutes ces années. Ils ont compris les 3000 milliards d'euros de dette que l'on a. Ils commencent à rentrer dans ce dispositif. Donc, ils ont conscience de dire, mais finalement, ça peut pas durer. Parce que eux-mêmes vivent aussi une gestion comptable de leur propre budget qui permet de dire, mais attends, c'est pas possible. On peut pas continuer à être, entre guillemets, à découvert comme ça. Et donc, je pense que c'est quand même assez intéressant.
Moi, du pédagogie économique, on a fait des progrès en France quand même, Bruno. Hein. C'est intéressant, un sondage comme ça, quand même, c'est parlant.
Moi, je pense que chacun comprend bien que le taux de prélèvement obligatoire est extrêmement élevé. Chacun comprend bien qu'en regard, le service rendu par les politiques publiques a baissé.
Ouais.
Et donc, du coup, on a un problème d'efficacité. Et que c'est dans ce problème d'efficacité qu'il faut aller voir. Parce que si, à chaque fois qu'on a un problème, on a une dépense publique supplémentaire et donc des prélèvements obligatoires qui augmentent, c'est pas possible. Donc, je pense que tout le monde a bien intégré qu'il allait falloir voir ça en profondeur. Effectivement, vous avez raison, personne n'a envie que le bon impôt, c'est toujours celui payé par l'autre.
C'est toujours comme ça.
Donc, voilà. Donc, personne n'a envie que ça se passe. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut faire, toute chose égale par ailleurs, c'est le gain d'efficacité.
Effectivement. On travaille ça. L'efficience de la défense publique.
C'est la clé, j'ai déjà dit sur ce plateau, si jamais l'ensemble des services de l'État étaient aussi efficaces que les services des impôts, serait extraordinaire.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se tient bien au niveau de la dette, c'est parce qu'on recouvre tellement bien l'impôt que ça a fait la différence. C'est ce qui n'allait pas en Grèce.
C'est exactement un des critères aussi de très bonne notation de la dette française.
Et là, on est très très bon.
On sait faire payer les contribuables.
Je dirais que l'efficacité du fermier général elles peuvent mener au pire. C'est pas parce qu'ils étaient inefficaces que ça s'est bien terminé.
Allez, Standard & Poor's verdict, donc 22-23 heures, ce qu'on nous dit, parce qu'après, les agences de notation nous ont appris à nous faire poireauter un peu plus longtemps, parfois des heures, parfois des jours. Donc ça peut être ce week-end.
On va attendre toute la nuit.
Bien sûr,
exactement.
On va rester éveillé jusqu'au petit matin. Renault, mesdames et messieurs, donc coup dur. On a appris que des dizaines de propriétaires de véhicules de la marque Renault, Nissan aussi, Dacia vont saisir la justice pour, je cite, tromperie aggravée, pratique commerciale trompeuse, escroquerie, mise en danger de la vie d'autrui en cause un ancien moteur adapté à des 400 000 véhicules européens entre 2012 et 2016. Tiens, écoutez l'avocat des plaignants, Maître Christog Legvag, avocat au bureau de Paris. C'était ce matin chez nos confrères d'RMC.
L'objectif, c'est de faire reconnaître le comportement délictueux de Renault et de permettre aux victimes du Motorgate d'être indemnisées de manière complète et absolue. Le problème vient principalement du moteur qui est vicié, et ce vice est connu de Renault depuis 2015. Et depuis 2015, Renault refuse d'informer les consommateurs, nie l'évidence et se planque derrière des mensonges. Les consommateurs ont enfin compris que c'est en se réunissant qu'ils vont pouvoir peser et se faire entendre par la justice.
Voilà, l'avocat des plaignants ce matin chez nos confrères d'RMC. On avait un expert du secteur auto qui nous disait tout à l'heure, on n'est pas dans le dieselgate, là, on n'est pas dans la dissimulation,
non.
On est plus dans le laxisme. Ce qu'il faut... On regardait la bourse, là, le titre a gagné 5% ce soir dans un marché très bien orienté. Et voilà, il n'y a pas mort d'homme, quoi, pour l'instant.
C'est certain. D'un point de vue un peu juridique, ce qui est assez étonnant, c'est à la fois... La plainte en tant que telle, qui est vraiment très précise, hein, c'est-à-dire on est proche du dol ou de la tromperie, ça veut dire on dit finalement vous me vendez un véhicule dont vous connaissez un certain nombre de défaillances. Ouais. C'est ça la plainte, elle se trouve ici. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la réponse de Renault, c'est-à-dire la réponse dira mais attendez, moi j'ai déjà indemnisé ceux qui sont été
93%
de ceux qui sont défectueux. Il faut comprendre que cette défense ne va pas leur servir, voire même va leur poser un problème, parce que là ça signifie que si jamais la question n'est pas de savoir si vous avez indemnisé ou non ceux qui se sont trouvés en difficulté, mais de savoir si au moment où vous leur avez vendu le véhicule, vous étiez informé qu'il était défectueux. Et là, je pense que la défense de Renault n'est pas au mieux. En revanche, c'est sûr que par rapport au Dieselgate, qui est dans un dispositif, là, oui, pour le coup, avec des contraintes légales et qu'on essaye de détourner et contourner la loi de manière explicite, le dispositif est beaucoup plus grave. Mais quand même, je pense qu'ils vont être très embêtés par ce sujet. Et autre point aussi, de l'importance des réseaux sociaux. C'est très intéressant ici de voir que tout ça est né dans des groupes Facebook, que ce soit en France ou au niveau européen, que tout ce petit monde est en train de s'agréger, d'échanger et d'arriver à fabriquer une sorte de class action.
Même le Dieselgate n'est pas parti d'une action sur Facebook, d'un groupe sur
exactement.
Sociaux. Et c'était quoi? On est en 2015.
Voilà.
C'est pas si vieux que ça, finalement. Bruno, comment est-ce que vous regardez cette séquence, vous?
Bah, une énorme bêtise de gestion de la prévente. On va le dire les choses comme ça. On a quoi? On a 1700 personnes qui sont prêtes à s'agréger.
Oui.
Renault nous dit qu'on a résolu 93% des cas. Donc ça veut dire qu'on a en gros résolu, on avait 100 000 problèmes, 110 000, et on a 1700 problèmes résiduels. Sur 400 000 moteurs produits, donc la probabilité était forte, certainement dans tous ces cas-là identifiés depuis extrêmement longtemps. Moteur partagé avec Dacia et Mercedes, on n'entend pas qu'il y a un problème pour le moment dans ces deux marques-là. Après, 1700 véhicules, c'est quoi? C'est, allez, 10 millions d'euros si on remplace la pièce défectueuse. Enfin,
alors, moteur installé sur 400 000 véhicules en Europe, moteur qui n'est plus installé.
Oui, mais on a résolu le problème pour 90 000 d'entre eux. Donc, 1700, ça ne coûte rien. C'est juste sûrement dans les objectifs donnés aux concessionnaires, dans l'après-vente, je ne sais pas quoi.
Non, mais c'est en termes d'image. C'est en termes d'image.
En termes d'image, derrière, effectivement, c'est catastrophique. Pour un gain nul. Le gain est nul. Ouais.
Nathalie.
Oui, faut voir un peu comment. Mais effectivement, si de toute façon ils en ont indemnisé la grande majorité, c'est sûr que c'est un peu. C'est pas de chance pour eux que ce truc arrive maintenant, parce que ça représente rien, effectivement. Et en fait, ça aurait dû être géré avant, quoi. Donc.
Et Rodolphe. Pour rebondir sur ce que disait Bruno, c'est vraiment aussi de la mondialisation. Hein, vous savez. On a beaucoup vanté le dispositif Renault-Nissan avec cette logique quasiment globale de la construction des véhicules planétaires, j'allais dire. Ben là, finalement, on voit que quand ça touche Renault, Dacia, Nissan, en fait, finalement, le dispositif, il est vraiment...
Ça arrose tout le monde, parce que vous avez des Renault Capture, des Clio, des Dacia Duster, des Qashqai, enfin, tout le monde y passe, quoi, dans
cette histoire.
C'est un
moteur Renault qui est fabriqué en Europe depuis longtemps.
Qui n'est plus fabriqué.
Mais pourquoi? Parce que, en fait, quand on produit un moteur comme ça, assez tôt, on identifie les défauts. Donc après, il y a des provisions qui sont faites pour prendre en charge en après-vente, pour bon, là le, c'est un problème résiduel et on, moi je suis
qui est
très
monté
étonné.
En épingle, c'est ça qui est
voilà, qui est, ouais. Je suis très étonné que Renault n'ait pas dit on va régler ça tout de suite. On met 10 millions sur l'affaire et on n'en parle plus. Ouais. C'est, et donc du coup, si ça s'est produit dans plein de concessionnaires, il est probable que ce soit une décision d'un relativement bas niveau hiérarchique comptable, voilà. Et donc c'est un peu bête, voilà.
Et qu'on se soit dit, bah finalement, le traitement individuel vaudra mieux et que de lancer un dispositif massif. Mais parfois, dans ces logiques, il vaut mieux se couper la main que le bras.
On verra. En tout cas, bah, on le disait, pas d'incidence sur le titre Renault. Loin de là, on va le voir si vous nous regardez à la télévision.
Oui,
le titre
des Renault, bonnes nouvelles par ailleurs.
Qui s'envole de 5, dans un marché qui gagne 2%. Mais quand même, hein, Renault qui gagne ce soir un peu plus de 5%, l'action un peu plus de 33 euros. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. L'inflation. Alors, c'était le débat de fin de semaine aussi. Est-ce qu'on est sur le point enfin d'arriver au pic de l'inflation? Est-ce qu'on est au pic de l'inflation? On va en parler. Puis on va dire un mot des retraites si on a le temps. Parce que mine de rien, le feuilleton revient la semaine prochaine. Ça faisait longtemps, tiens. Bon. Partie des feuilletons qu'on aime suivre sur BFM Business, évidemment. À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, la dernière partie du débat sur BFM Business. Nathalie Janson, Bruno Coquet et Rodolphe Bonas pour parler un peu d'inflation, parce que ça a été aussi le feuilleton de cette fin de semaine. Les chiffres qui sont tombés hier en France, 5,1% fin mai contre 5,9% un mois plus tôt. Le pic d'inflation est-il atteint? Écoutez ce que disait ce matin Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME, du commerce et de l'artisanat. Est-ce que le pic d'inflation est passé? On ne sait pas. En tout cas, c'est toujours ça, ça ne monte plus. Écoutez.
Le mois dernier, dans les rayons, on était à 15%. D'accord. Concrètement, aujourd'hui, on est à 14%. Bon, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas la chute, c'est que ça arrête de monter. On est là. Ça arrête de monter. On est là. Okay. Premièrement,
mais on retrouvera pas les prix d'avant.
Cet été, vous allez voir des baisses de prix. Les renégociations pour des dizaines d'entre eux ont commencé. Cet été, sur des matières premières qui ont baissé, je vous fais pas tout le détail, le tournesol, l'huile de tournesol, le blé, l'avoine, les pâtes, les prix vont baisser pour partie dès cet été. Pour d'autres produits, ce sera plutôt à la rentrée ou début 2024, comme les distributeurs l'ont dit. Ça dépend du prix des matières premières.
Ça y va, hein. Voilà, ouais,
je pense, oui. Non, je pense que sinon, elle va aller changer elle-même.
Ah, je crois qu'elle va aller changer les étiquettes dans les rayons. Non, ce qu'elle dit pas, c'est, enfin, elle dit effectivement, ça baisse sur le blé, sur l'huile d'olive. Ce qu'elle dit pas, c'est ce que nous disent les fournisseurs pour dire, attendez, minute papillon, tout va pas baisser et tous les prix vont pas baisser parce que les fournisseurs disent, le sucre, ça baisse pas, les fèves de cacao, ça baisse pas, l'huile d'olive, ça baisse pas, le verre, ça baisse pas, le plastique, ça baisse pas. Donc, la détente, c'est pas pour tout de suite, quoi.
Non, c'est pas forcément pour tout de suite. Après, il y a le temps de la négociation,
bien sûr,
qui va mettre entre 2 et 3 mois le temps que les stocks s'opèrent. Et puis, on a cette particularité française, quand même, je tiens à le signaler, parce que on a envoyé des fournisseurs renégocier, mais dans un cadre, comme d'habitude, en expliquant très clairement, attendez, stop, ne seront négociés que les produits qui ont subi une hausse de plus de 10% dans la négociation précédente. Donc, ça veut dire que si vous aviez un produit qui était à plus 9%, eh bien, ce produit, le tarif sera respecté pendant toute l'année. Même s'il est impacté par les baisses de prix bien plus impactantes que ce qui est évoqué par la ministre. Donc là, on se rend compte, moi je pousse un petit coup de gueule ce soir, parce qu'on est ensemble, on se rend compte que de vouloir administrer à la fois les prix d'achat des distributeurs, de vouloir administrer les promotions commerciales, de vouloir administrer les négociations, de vouloir administrer les prix de vente, eh ben on arrive à un système où finalement, ben l'inflation, oui, elle monte moins vite, elle va se stabiliser à un niveau élevé, mais clairement, comme d'habitude, chez nous, ça va descendre plus lentement que chez les autres.
Bon, Nathalie ?
Bah écoutez, moi je suis un peu fatiguée. Souvent je me dis, mais pourquoi ? Mais est-ce que j'entends ça ailleurs qu'en France ? Des ministres qui, tous les 5 minutes, vont dire, oh non, alors là, le prix du sucre, il est vraiment trop cher. Moi, je dis que c'est pas possible.
Il n'y a rien de tout ça ailleurs en Europe,
non,
vraiment ?
Non, parce moi, que jamais non, entendu non, de discours. Je lis beaucoup le Financial Times, il m'est jamais arrivé de lire...
Politiquement, c'est sensible partout, et par exemple, ça soit en France que ça soit...
Et il n'y a qu'en France où, en fait, on intervient comme ça dans tout. Donc, effectivement, comme souvent a été rappelé sur ce plateau, l'explication du pourquoi ça augmente cette année et pas forcément l'année d'avant, d'ailleurs, c'est parce qu'il y a un délai passe dans les contrats.
Mais Nathalie, cette logique-là vient de la volonté sous-jacente d'avoir une économie administrée.
Administrée, oui, tout
donc,
à fait.
Donc, à quand des épiceries d'État comme à Cuba, et puis on verra ce qui se passera.
Bruno
Moi, j'ai écrit un livre il y a 5 ans dont le sous-titre était Sortir de l'économie administrée.
Bah, on n'est pas sûr.
C'est la catastrophe. Donc, on sait, il y a les politiques publiques, l'État ne sait pas gérer déjà ce qui lui revient. Je passe sur les sujets régaliens, les choses comme ça. Même les sujets économiques, on voit que c'est assez compliqué. On le disait tout à l'heure pour le taux de prélèvement obligatoire. Alors là, aller régler le problème des prix dans les supermarchés, je crois que c'est au-delà des limites du possible.
C'est le trimestre anti-inflation.
Pour dire comme Nathalie, je crois qu'il y a qu'en France que l'administration pense que c'est possible qu'elle soit plus forte que le marché. L'Union soviétique, à l'époque, où c'était comme ça, c'est-à-dire les prix étaient fixés dans un bureau au Gosplan, et puis bon, on essayait d'équilibrer le truc. Bon. Mais la question était, est-on au pic d'inflation? Alors d'abord, les prix continuent d'augmenter, puisqu'on est à plus 6% par rapport à l'année dernière. Alors certes, sur le mois, c'est assez stable. Et puis, de toute façon, il faut voir que, dès qu'on détaille par secteur d'activité, qu'on regarde les taux de marge, on voit bien qu'il y a de l'hétérogénéité, entre secteurs, et qu'il y a des secteurs qui ont accru énormément leur taux de marge, et que ça va se réguler à un moment entre secteurs. Et puis après, il y a à l'intérieur des secteurs, il y a des entreprises qui ont accru leur taux de marge, et d'autres
bien sûr,
pas.
Bien sûr.
Et donc.
Non, mais espèce de petite musique qui consiste à dire que les fournisseurs, de manière générale, ont accru leur marge considérablement, quoi. Voilà, c'est la petite musique que le gouvernement entretient pour dire aux industriels, mettez-vous autour de la table et baissez leurs prix, finalement.
Pas seulement. On voit que Carrefour a eu des bénéfices énormes, on voit que Stellantis a eu des bénéfices énormes, qui ne sont pas des fournisseurs directement, hein, mais plutôt en bout de chaîne.
Ils ont vendu moins de voitures, ils ont gagné plus d'argent. C'est quand même un bon système.
Voilà. Oui, c'est ça.
Donc du coup, ils sont payés aussi moins cher que ce qu'ils ont vendu plus cher. Donc du coup, c'est ça l'inflation, c'est que en fait, le mécanisme sera stabilisé quand cette hétérogénéité aura disparu entre secteurs et entre entreprises, parce que la concurrence aura fait son œuvre et que chacun aura convergé. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'on a toujours des distorsions là? Oui, on a des distorsions, donc le processus d'augmentation va continuer.
C'est le temps politique qui est ainsi fait, mon cher Bruno, je vous dirais.
Et le temps politique, Guillaume, mais aussi ce qu'expliquait Bruno, c'est les limites de l'administration face au marché. Je pense que cette approche, elle est très juste. Et il y a même des éléments qui sont d'une contradiction terrible pendant cette période d'inflation, de pouvoir d'achat tendu avec des Français et des politiques qui sont sur les plateaux télé en disant « vous inquiétez pas, on est là pour vous rassurer ». On sort une loi qui s'appelle la loi des Croisas, qui est en train de réguler les négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels des produits d'hygiène beauté pour faire en sorte que finalement ils puissent préserver des marges. Mais on marche sur la tête. Ça veut dire que là, on est en train de se dire nous, Français, avant, quand on achetait un baril de lessive, on pouvait en avoir un et en avoir le deuxième gratuit, c'est fini. Il faudra en acheter deux pour avoir le troisième gratuit. C'est de l'argent au moins dans notre poche. Et je me dis, mais comment on peut d'un côté, dans le même temps politique, venir sur les plateaux et défendre ces éléments-là et dans l'autre, faire passer des lois qui vont aller chercher dans le porte-monnaie des Français.
Il y a un peu de précipitation aussi, un peu de panique pour essayer d'apaiser un petit peu les choses du côté des prix en vue de la rentrée, parce que c'est bien ça qui est en ligne de mire finalement, la rentrée. Et la rentrée se prépare dès aujourd'hui. Voilà.
Sur la rentrée, c'est vrai, ce qui a été évoqué par Olivier Grosse, c'est vrai, il y a des prix qui vont baisser, que vous allez voir dans les rayons qui vont baisser, et c'est vrai que sur les produits de rentrée, sans doute qu'on aura des prix qui sont...
C'est ça qu'ils ont dans le viseur désormais, c'est la rentrée.
Exactement, c'est la rentrée. Donc là, on va voir quand même des indicateurs prix qui seront beaucoup plus contenus que ce qu'on a vécu l'année dernière.
En quelques secondes, on a passé le pic d'inflation, là, véritablement, 5,1. Là, tout le monde a l'air de dire que ça y est.
L'inflation va continuer à niveau élevé. On ne va pas retourner à 2%.
Non, mais bien, j'entends. Parce que le plus dur est passé, ce qu'on nous présente déjà comme le plus dur. Hein. C'est pas la fin des.
Oui, mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, on a eu 5 ou 6%.
Je pense que c'est moins sûr que Standard Poor's.
Effectivement.
C'est réglé. D'abord, l'énergie peut repartir à la hausse. On est bas en ce moment. On est revenu à peu près $75 le baril de pétrole ces derniers temps. Le gaz est bas, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que les gens vont payer plus cher. Enfin, on voit bien que le système n'est pas stabilisé. C'est ça le problème de l'inflation, c'est que de toute façon, ça ne se résorbe que par un ralentissement de la demande. C'est ça le problème de l'inflation. Donc on le voit bien, la demande, en tout cas de biens, les achats de biens ont fortement ralenti, moins 4% par rapport à l'année dernière. Et donc du coup, la récession, enfin l'Allemagne est en récession, on voit bien que ça ralentit fortement. si ça continue de ralentir, effectivement, l'inflation va ralentir relativement vite.
D'accord avec ça, Nathalie. Faut pas considérer qu'on a passé le pic de l'inflation.
Comme Bruno, je serais plutôt, de toute façon, oui, j'ai plutôt des doutes sur exactement où est le pic. D'abord, c'est hyper compliqué de le savoir, pour les raisons qui ont été évoquées, parce qu'il y a de la dispersion, parce que c'est de la diffusion, l'inflation. Faut le temps qu'effectivement, à travers les différents secteurs, ils ont pas tous le même timing. Donc, effectivement, faut prendre ça avec des pincettes. Et en effet, ça, de toute façon, c'est le ralentissement de la demande qui va finir par effectivement venir à bout du processus d'inflation. Bon. Il y a aucun pays qui a fini une période d'inflation sans avoir une baisse de son activité. Ça n'existe pas, puisque c'est ce que vous cherchez en remontant les taux d'intérêt. Donc, et d'ailleurs, à ce titre, vous verrez que l'Angleterre qui a voulu faire l'original au mois de septembre, en disant, mais non, je vais continuer à monter les taux, mais je vais quand même injecter de la liquidité, conclusion, elle a toujours une inflation forte. On peut pas, ça n'existe pas de faire les deux mouvements contradictoires.
Et en n'augmentant pas les salaires.
Oui.
C'est ça aussi qui ralentit l'activité.
On entretient la boucle inflationniste. Bon, on verra en tout cas si le gouvernement dit vrai dans cette histoire. Pic d'inflation est-il passé ou pas? La question reste entière. C'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School, Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE et Rodolphe Bonas, PDG d'Aristide Retail Technology. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Dans un instant, c'est les pionniers chez Fred Mazzella. Fred qui reçoit ce soir Luca De Meo, directeur général du groupe Bruno, qui va nous parler de son parcours, qui dit « Je veux rendre beaucoup de choses à Renault, ce que Renault m'a donné ». Extrait.
J'ai toujours été un fanat de voitures. Donc pour moi, travailler dans l'automobile, c'était mon rêve depuis que j'étais gamin. Et Renault m'a donné ces deux possibilités. Un, de travailler en automobile, et deux, de commencer une carrière internationale. Donc, en revenant ici, je devais quelque chose à Renault. C'est la première entreprise qui m'a donné la chance professionnelle de ma vie.
Voilà, Luca De Meo, comme vous l'avez jamais entendu, le directeur général de Renault avec Fred Mazzella dans un instant, les pionniers, 19h-20h. Et nous, on se retrouve lundi, 18h, en direct pour Nouvelles Aventures. Bon week-end, à lundi sur BFM Business.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.